Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Vu la météo, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aller au musée? On vous propose une sélection d'expos à ne pas rater ces jours-ci. Mais d'abord, on vous présente le dernier rapport de la Ligue des droits humains. Le constat est sévère pour l'état de droit en Belgique. Nous sommes le mardi 24 janvier, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Comme tous les ans, la Ligue des droits humains présente son bilan annuel sur l'état des droits humains en Belgique. L'édition 2022 met l'accent sur l'état de droit, sur le respect des décisions de justice par les autorités. Et le constat est terrible. On analyse ce rapport avec Arthur Sante du service Société. Bonjour Arthur.
Bonjour Pierre.
C'est quoi ce bilan annuel sur l'état des droits humains en Belgique?
C'est un bilan que la Ligue des droits humains produit chaque année en essayant de recenser sur plusieurs thématiques, voilà, des dossiers qui ont été un peu marquants, qui prennent un petit peu la température effectivement des droits humains dans notre pays, que ce soit sur les thèmes de l'accueil des migrants, sur la justice, la lutte contre le terrorisme. Généralement, ce sont des rapports qui traitent une bonne dizaine de thématiques. Et cette année, c'est vrai que ce bilan qui a été produit est très axé sur une problématique en particulier, qui est la question du respect de l'état de droit. En fait, la thèse avancée par la Ligue des droits humains cette année, c'est que nous avons eu affaire, et sur base de plusieurs dossiers, donc c'est quand même étayé comme argumentaire, à des non-respects visiblement de plus en plus systématiques de l'état de droit, en tout cas du principe d'état de droit.
D'état de droit, on entend aussi par là le non-respect de décisions de justice par les autorités. Très concrètement, ça veut dire qu'il y a un tribunal, une institution judiciaire quelque part qui prend une décision qui a un lien avec l'autorité et que cette autorité, elle ne suit pas cette décision.
On peut résumer ça de cette manière. Je pense qu'en tout cas, ce n'est pas tordre la vérité, même si c'est un petit peu plus subtil que ça. Mais effectivement, dans plusieurs grands dossiers qui ont animé la vie politique et judiciaire belge, nous avons eu affaire à des décisions de justice qui n'ont pas été suivies des faits ou alors qui ont été suivies des faits qui sont controversé. Je pense que l'exemple le plus emblématique, c'est le dossier de la crise de l'accueil. Il y a eu des milliers de décisions qui ont été rendues par le tribunal du travail, notamment, enfin en tout cas principalement de Bruxelles, condamnant l'État belge pour non-respect de ses obligations en ce qui concerne le devoir d'assister matériellement les demandeurs d'asile. Ces décisions qui n'ont pas été suivies des faits ont ensuite entraîné des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y en a eu 1114 en tout en 2022, obligeant la Belgique à se conformer à sa propre loi et donc à apporter une assistance matérielle à ces gens. Et on voit que dans un nombre très important de cas, en fait, ces décisions n'ont pas été suivies des faits. Maintenant, ce n'est pas le seul dossier qui est cité par la Ligue des droits humains. Et à raison, il y a eu notamment une décision qui a été rendue l'année dernière dans l'affaire Trabelsi. En résumé, l'affaire Trabelsi, c'est celle d'un terroriste tunisien qui avait été condamné au début des années 2000 pour un projet d'attentat sur la base de Kleinebrogel, qui avait été condamné dans notre pays, mais ensuite qui avait été livré aux États-Unis sans qu'il y ait une décision de justice pour appuyer cela. Et là-bas, il est exposé à des traitements inhumains et dégradants, jugé en tout cas comme tel, et une décision de la Cour d'appel rendu l'année dernière, est encore venu rappeler que la Belgique n'avait pas respecté ses obligations en la matière.
Et un des derniers dossiers en date, un dossier dont on a beaucoup parlé aussi, c'est celui des fouilles liées au procès des attentats du 22 mars.
Effectivement, dans ce procès, il y a eu une procédure en référé qui a été introduite par plusieurs avocats de la défense, qui a donné lieu à une décision du juge des référés, qui a dit quoi ? Qui a dit que la police ne pouvait plus procéder à des fouilles à nu, avec une inflexion systématique sur les accusés et détenus. Notamment, donc, cette décision implique pour la police de devoir livrer en fait des motivations spécifiques et individuelles à chaque fois qu'elle veut procéder à une fouille. Et alors, bon, sur le respect en fait de cette décision de justice, il y a à vrai dire, un débat qui est lancé, puisque du côté du ministre de la Justice, du côté de la police, on estime qu'on respecte en fait cette décision. Chaque jour, il y a des...
Qu'on justifie, qu'on donne des arguments.
Il y a des justifications qui sont offertes. Du côté de la défense, on dit que ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on estime qu'en fait les justifications qui sont offertes ne sont pas motivées au cas par cas, pas suffisamment motivées individuellement, et on estime que ces fouilles seront toujours menées de manière systématique. Donc voilà, ça c'est un cas peut-être un petit peu plus flou, puisqu'on ne peut pas dire que l'exécutif n'a pas réagi à cette décision. Elle a réagi, mais d'une manière qui est jugée par de nombreux avocats qui sont impliqués dans ce procès comme insuffisante et bafouant l'état de droit.
La Ligue des droits humains ne se limite pas à ça. Elle pointe aussi des questions par rapport à la situation au sein de l'autorité de protection des données. On renvoie les auditeurs vers les podcasts qu'on a pu faire avec Philippe Laloux, avec Charlotte Derep, qui nous ont bien expliqué toute cette problématique. Ici, Arthur, si l'autorité ne respecte pas ses décisions de justice, ne respecte pas l'état de droit, c'est parce qu'elle ne veut pas ou parce qu'elle ne peut pas?
Alors, le parti pris, en tout cas, de la Ligue des droits humains et l'analyse qu'il livre, c'est que, et c'est ce qui est jugé particulièrement problématique, selon eux, notamment dans le contexte de cette crise de l'accueil, c'est qu'il y aurait une volonté manifeste de ne pas se conformer à ces décisions. Alors, certes, ils disent qu'il ne faut pas négliger l'incompétence ou la désorganisation, effectivement, les difficultés structurelles qu'on peut rencontrer dans l'accueil des demandeurs d'asile, mais surtout, estime-t-il, c'est parce qu'en fait, il y aurait un coup politique, en tout cas supposé, pour les partis flamands de se conformer à ces décisions de justice, parce que on pourrait, toujours d'après la Ligue des droits humains, on devrait même, par exemple, mettre la main au portefeuille pour héberger dans des hôtels ces demandeurs d'asile qui ont droit, je le rappelle, à cette assistance matérielle. C'est un droit qui est fixé dans notre loi et que ces décisions impliquent un devoir de résultat. Donc il n'y a pas lieu, en théorie, de tergiverser autour de la manière. Il faut atteindre cet objectif. Voilà, donc ça c'est un petit peu le constat que la Ligue des droits humains dresse, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on aurait affaire à des volontés conscientes, en fait, de ne pas respecter ces décisions politiques.
On peut établir des points communs entre les différents dossiers, les différentes décisions de justice qui ne sont pas respectées par les autorités. Ça concerne toutes les décisions qui sont prises par l'autorité judiciaire en Belgique ou sur certains dossiers entre lesquels on peut établir des parallèles.
Ce qu'observe en tout cas la Ligue des droits humains, c'est que sur ces grands dossiers qui crispent et qui viennent mettre à mal, disent-ils, le principe de l'état de droit, s'il y a effectivement des points communs, ce sont des dossiers qui touchent à la question de l'accueil des étrangers, à la question du terrorisme, la question aussi, par exemple, de la vente d'armes à des puissances étrangères qui les utilisent à des fins guerrières, notamment on pense à l'Arabie Saoudite engagée dans le conflit au Yémen. Ce sont des problèmes qui sont a priori un peu plus loin de la population belge, qui représentent moins de risques, en tout cas en cas de non-respect.
Un coût politique moins important.
C'est ça, un coût politique moins important. Et mes interlocuteurs faisaient le parallèle justement pour illustrer ça avec les dispositions qui avaient été prises en matière de lutte contre la pandémie, où là, l'État belge s'était fait assez sèchement recaler, notamment par le Conseil d'État. Ça avait abouti à l'élaboration d'une loi pandémie qui était claire et sans trop tarder, sans trop tergiverser, parce que là, il y avait effectivement un sujet qui touchait à l'ensemble de la population, suivi de très près, qui suscitait beaucoup d'indignation. Donc voilà, ça, c'est le présupposé de la Ligue des droits humains, est de dire que l'État n'agit pas, ne réagit pas parce qu'il sait ou il pense que politiquement il peut se permettre d'agir de la sorte.
Il y a aussi un danger qui se pose au niveau international. Le commissaire européen en charge de l'état de droit, c'est Didier Reynders. Il est belge, parfois il fait la morale à d'autres pays. Or, si son propre pays est constamment condamné, ça devient une position un petit peu difficile à tenir.
Oui, effectivement, ça c'est aussi un point de vue qui est défendu par la Ligue des droits humains, c'est de dire, et c'est pas le cas seulement pour la Belgique, mais aussi pour d'autres pays, notamment d'Europe occidentale, où ils disent observer ce même glissement, c'est qu'à force d'être condamné et de ne pas répondre par des actions adéquates pour se conformer à ces jugements, c'est qu'on risque de devenir de moins en moins crédible sur la scène internationale pour aller condamner ici la Pologne, ici la Hongrie pour non-respect de l'état de droit.
Merci beaucoup Arthur.
Merci Pierre.
Bouche à oreille.
Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Winans du service culture qui nous propose une sélection d'expositions à voir dans les semaines qui viennent. Il est au micro de Camille Petou.
Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Quelles sont les expositions à aller voir absolument cette semaine?
Alors il y a déjà deux expositions qu'il faut voir maintenant ou jamais, parce qu'elles se terminent tout simplement. C'est d'une part On the Lookout au CAB, à la Fondation CAB, et puis Michael Danse, ça c'est à Liège, à l'espace 251 Nord. Alors deux expos très différentes. On the Lookout, c'est une expo qui est commencée depuis très longtemps déjà, mais il y a quand même des gens qui ne l'ont pas encore vue, donc voilà, ça se termine dimanche, le dimanche 28. Après, vous n'avez plus d'excuses, vous ne la verrez pas. Et c'est une expo tout à fait intéressante, parce que c'est une expo, comme toujours à la Fondation CAB, très conceptuelle, très minimale également, avec des artistes de renom, comme Anne-Véronica Janssens, comme Peter Vermeersch, et puis des artistes un peu moins connus aussi, qui tous travaillent un petit peu sur ces notions impalpables, comme ça. Ce sont des choses, des œuvres qu'on peut voir ou ne pas voir. Par exemple, à l'entrée, il y a une œuvre d'Adrien Lucas. Si vous rentrez un peu vite, bah, vous allez peut-être voir juste une série de carrés et de rectangles gris sur un fond blanc. Et puis c'est tout. Et puis vous verrez des copains qui vous diront « Mais non, t'as rien vu là, c'est rouge, c'est jaune, c'est vert. » Enfin, pas du tout, c'est gris. Bah, il faut juste vous arrêter et attendre un moment. Et vous verrez qu'avec des variations de lumière, tout à coup, ces carrés gris, effectivement, petit à petit, changent de couleur, deviennent un peu rosés, et puis rouges, et puis verts, etc. Donc c'est tout un travail sur la lumière et sur la couleur. C'est la même chose, par exemple, avec l'œuvre de Morgan Chimber, qui se trouve en plein milieu de l'espace. C'est un très grand espace, très bel espace. Et là, c'est comme des lanières de plastique qui descendent du plafond, qui roulent sur le sol, qui remontent de l'autre côté, qui transforment toute la vision du lieu. Donc c'est vraiment une exposition à vivre pleinement, et pas juste à regarder. Il faut prendre le temps, il faut se promener dedans, et ça vaut vraiment la peine. À Liège, c'est tout à fait autre chose, c'est du dessin. Ça, c'est un artiste, Michael Danse, qui fait un peu de tout. Il fait aussi bien des installations, de la photographie, du dessin. Cette fois-ci, c'est uniquement du dessin. Alors, Michael Danse, il a vécu quand même un truc assez hard pendant les inondations du côté de Liège. Son atelier, sa maison, se trouvait proche de la rivière. Tout a été inondé. Donc, tout, hein, ses souvenirs, ses meubles, mais aussi tout son travail. Donc, il a perdu énormément de choses. Depuis, il vit chez sa mère, tout simplement, où il s'est remis à dessiner pour s'occuper pendant les journées. Il a travaillé. Et il a remarqué aussi très vite, après les inondations, qu'il y avait des gens qui venaient aider. Et puis dans ces gens qui venaient aider, il y avait aussi des gens qu'on surnommait les vautours, c'est-à-dire des gens qui tout à coup, on les voyait repartir avec un truc sous le bras. Donc ils n'étaient pas tout à fait là pour aider. Et cette idée de vautour a commencé à lui tourner dans la tête. Il s'est renseigné sur les vautours, il s'est rendu compte que ce n'est pas du tout ce qu'on pense, les vautours. En fait, le vautour vient nettoyer, par exemple, un squelette d'animal. Et puis une fois qu'il a totalement nettoyé, ben, on peut passer à autre chose et la vie peut renaître. Donc le vrai vautour, pas celui qui va piquer des trucs dans les maisons, c'est en fait un animal tout à fait utile à notre société. Et à partir de là, il a commencé à dessiner ses vautours, essentiellement des ouroboos, c'est les vautours d'Amérique, et il est parti au tout début d'images qu'il a vues, et puis très vite, il s'est débarrassé de ça. Et donc tous les vautours qu'il dessine, il les imagine. Quand vous voyez les dessins, c'est des portraits comme les portraits anciens qu'on peut voir dans les musées d'art ancien, etc. Sauf que ce ne sont pas des nobles, ce sont simplement des vautours avec un détail incroyable dans les plumes, le bec, les yeux, etc. C'est une exposition absolument formidable. Et au sous-sol, il y a les oursons, parce que Michael Danse, il dessine depuis très longtemps aussi des oursons, les nounours hein, en plus. Alors ça a l'air très sympa comme ça. Il faut aller voir pour se rendre compte que c'est sympa, mais un peu moins quand même que ce qu'on peut penser. C'est pas des ours à mettre dans la chambre des enfants. Il y a toujours une ambiguïté, des choses un petit peu étranges comme ça, mais c'est formidable et magnifiquement dessiné.
Et pour les prochaines semaines, on aura du Picasso, de la photo et de l'imagination?
Ah ben oui, il y a toujours plein de choses un petit peu partout. Alors Picasso, c'est Picasso et abstraction, hein, au Musée Royal des Beaux-Arts, ça continue. Donc attention, c'est bien Picasso et abstraction. Picasso a toujours dit qu'il ne faisait pas d'abstraction. Et on voit ici à quel point il s'en est rapproché à certains moments. Il y a plein de Picasso dans l'expo, il y a aussi plein d'autres artistes et on voit bien le lien entre les deux. C'est vraiment une très très belle exposition dans le cadre des fameuses manifestations des 50 ans du décès de Picasso. Il y a donc 50 manifestations dans le monde et celle-ci était la première ou la deuxième qui s'est ouverte, je pense. On a aussi Photo Brut, ça c'est plus récent, c'est à la Centrale d'une part, au Botanique d'autre part. Et Photo Brut, c'est quoi? Ben c'est, on parle beaucoup d'art brut, l'art brut qui est fait par des gens qui n'ont donc pas de formation à l'art, qui s'y mettent d'eux-mêmes. Alors ça peut être quelqu'un qui pendant toute sa vie a dessiné des trucs chez lui et personne ne le savait. Le jour où il meurt, on ouvre un coffre et on trouve des centaines de dessins et on s'aperçoit qu'il était surdoué. Ça peut être des gens qui travaillent dans des ateliers, par exemple, pour des ateliers pour handicapés mentaux et des choses comme ça. Bref, il y a de tout là-dedans. Ça existe aussi en photographie. Et donc ici, il y a une collection assez extraordinaire et une partie de cette collection est montrée au Botanique, une partie à la Centrale. Et on découvre des tas de choses assez folles, assez belles, très différentes de ce qu'on voit d'habitude dans les expos photos. Et puis, la dernière de notre sélection, la dernière expo qu'il faut absolument voir pour le moment, c'est aussi les fabriques du cœur et leur usage. Ça, c'est au Max, donc c'est au Grand Ornu. Il faut faire un petit peu de route, mais il n'y a pas trop de neige normalement de ce côté-là, donc ça doit aller. Et c'est une très très belle expo, puisque là, c'est une expo anniversaire. Et pour l'expo de l'anniversaire du Grand Ornu, on a été demandé à Laurent Busine, qui était le porteur du projet et aussi le premier directeur du Max, qui a créé un parcours, qui est un parcours à son image très poétique, avec des artistes formidables comme Giuseppe Pennone, etc. Et puis, des choses qui viennent d'un petit peu partout, qui ne sont pas nécessairement de l'art, mais qui se mêlent avec tout ça. Ça raconte des histoires, il y a du merveilleux, il y a de la poésie, c'est vraiment un voyage formidable et on peut rêver dans cette exposition pendant tout le parcours et même après, puisqu'on se promène après dans tout ce cadre magnifique du Grand Ornu.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain !